Réplique, quelle histoire pour la France, avec Dominique Borne et Jean Sévilla. Né en 1949, dans une famille fraîchement naturalisée, je n'ai pas reçu un enseignement patriotique, mais j'ai bénéficié d'une éducation délibérément nationale. Chaque année, j'étudiais en classe de français une pièce de Corneille, une pièce de Racine, une pièce de Molière. Et c'était au tour de l'histoire de France que s'organisaient sans cocorico les cours d'histoire. Qu'en est-il aujourd'hui, c'est-à-dire à l'heure de l'Union européenne, de l'immigration extra-européenne et de la mondialisation? C'est ce que je demanderai à Jean Sévilla, rédacteur en chef adjoint au Figaro Magazine, qui a écrit une histoire passionnée de la France, et à Dominique Borne, qui, après avoir été longtemps professeur de Cagnes au lycée Henri IV à Paris, est devenu inspecteur général de l'éducation nationale et qui publie « Quelle histoire pour la France ?». Ce titre m'inspire ma première question. Convient-il au XXIe siècle d'enseigner l'histoire de France autrement, Dominique Borne?
Je crois qu'il faut toujours qu'il y ait un récit d'histoire de France. Et il ne s'agit pas seulement d'enseignement, mais il s'agit de référence. La référence à l'histoire est une constante de la vie politique. Depuis la Troisième République, il n'est pas un homme politique qui n'ait fait référence à une histoire de France. Donc je crois qu'au-delà de l'enseignement, qui est capital bien sûr, il y a aussi une histoire de France, un récit ou des récits. Là, le problème peut se poser, on pourra le développer ensuite, hein, un récit ou des récits. Hein. Mais je crois aussi que si le récit est absolument nécessaire contre ceux qui pensent, et je l'affirme ici, contre ceux qui pensent que les histoires nationales sont périmées, je pense que les histoires nationales ne sont pas périmées et que la France a encore besoin pour vivre, hein, et pour donner une cohérence à la société française d'une histoire, je pense. Mais le monde a changé. La France qui est sortie de l'Europe, la nation française est sortie de l'Europe entre le Xe et le XIIIe siècle. Donc ça, on peut en discuter sans fin. Nous avons les mêmes expressions avec Jean Sévilla, où nous disons la France avant la France. Hein. J'ai retrouvé les mêmes expressions, hein, dans nos deux livres. Hein. La France est sortie de l'Europe. Alors, est-ce qu'elle y revient en Europe actuellement? C'est un des vrais problèmes du monde où nous vivons. Je crois aussi que la société française a changé. Et je crois que les grands récits, parce qu'il n'y avait pas un seul récit, mais je crois qu'il y avait plusieurs récits, souvent mêlés, souvent imbriqués les uns dans les autres, hein. Mais il y a plusieurs types de récits. Et je crois que ces grands récits ne conviennent plus tels qu'ils étaient exprimés, exactement à la situation de la France aujourd'hui. Donc je crois qu'il faut renouveler en partie le sens, sûrement la forme, du récit national.
Jean Sévilla.
Alors je suis très largement en accord avec ce que vient de dire Dominique Borne. Mais avec quelques points de désaccord. Il ne faudrait pas, sous prétexte que la France a changé par la composition de sa population, par son entrée dans l'Europe, dans la mondialisation, oublier que l'histoire est un récit sur le passé, par définition. Donc le passé, il n'a pas changé. Ensuite, le temps que nous avons, qui nous sépare de ces mutations qu'ont connues la France, n'est pas encore un temps historique. L'histoire, il faut du recul, il faut 50 ans, il faut 100 ans peut-être pour juger les grands mouvements de l'histoire. À quel titre dirions-nous que nous sommes sortis du modèle national, ce que prétendent certains, y compris certains historiens? À quel titre prétendrions-nous que tout est fatal, bouclé dans le modèle actuel de la France de 2015? Non, je ne le crois pas. Donc c'est pour ça que je pense légitime de continuer à enseigner l'histoire de France. Par ailleurs, il y a un présupposé idéologique, c'est ceux qui contestent l'idée d'histoire de France, qui est qu'au fond, il faut adapter le contenu de l'enseignement à l'enseigner aux élèves. Or, moi, je pense, à l'inverse, et je ne pense pas que ce soit Alain Finkielkraut qui me contredira, qu'il faut adapter, qu'il faut amener les élèves au contenu de l'enseignement et donc les amener à l'histoire de France.
Alors, mais précisément, votre point d'accord, c'est l'idée qu'il faut continuer d'enseigner l'histoire de France, que ce thème-là, que cet objectif-là n'est pas périmé. Mais alors précisément, si vous êtes d'accord pour le dire, c'est que beaucoup pensent l'inverse, vous l'avez dit l'un et l'autre parmi les historiens, mais justement, Dominique Borne, je voudrais savoir ce qu'il en est aujourd'hui dans l'enseignement. Je vous pose cette question parce que j'ai sous les yeux le livre de Serge Kouzinski, « L'histoire, pourquoi faire ?» et il s'enchante de voir que dans le programme de seconde, on aborde la notion plurielle de modernité en expliquant que ces modernités se forgent au contact d'autres humanités et d'autres savoirs, au prix de risques d'échanges mais aussi d'agression. Le même programme invite à explorer les différents aspects d'une première mondialisation, en jouant sur les échelles et sur les temporalités, et en privilégiant les interconnexions. Il faut rapprocher le processus de mondialisation de l'expansion européenne, dont il faut comprendre les modalités et les facteurs. Et trois sous-thèmes, une étude obligatoire conçue pour rendre compte du dynamisme des sociétés de l'islam, deux autres études qui laissent le choix, l'une de suivre un navigateur ou d'explorer un grand port européen, l'autre de visiter une métropole précolombienne ou de découvrir Pékin, la capitale des Ming. Et conclut Serge Kouzinski, ce programme témoigne des efforts méritoires de l'éducation nationale pour échapper au vieux moule hexagonal et l'on ne peut que l'en féliciter. Alors voilà, c'est comme si effectivement, aujourd'hui, époque de la mondialisation, il fallait enseigner quasi directement l'histoire du monde. En est-on là? Et que pensez-vous d'un programme ainsi conçu? Oui. Dominique Borne.
Alors, je précise à la Fugelcrout d'abord que je n'ai plus aucune responsabilité dans les programmes.
Ah ben c'est bien, comme ça vous êtes libre.
Depuis 12 ans, hein, donc ça oui. fait, c'est très ancien. Oui, oui. Hein. J'ai travaillé sur l'étude des programmes, mais je n'ai pas envie de directement d'attaquer mes anciens collègues, si je puis dire. C'est un peu compliqué. C'est une situation un peu difficile pour moi par rapport à cela. Hein. Mais il n'empêche. Dans ce que vous dites de Kouzinski, il y a eu des... C'est tout ce qui s'entraîne, l'histoire dite connectée, etc. Il y a tout un courant historique, ça, actuellement, qui pense qu'il ne faut pas envisager l'histoire à partir d'un seul lieu, pour le dire extrêmement simplement, hein, extrêmement simplement, quitte à simplifier un peu trop peut-être, hein, mais qu'il faut envisager globalement des interconnexions. Donc on peut à peu près le dire ainsi, je crois. Alors, je pense que dans l'enseignement de l'histoire et dans la pratique de l'histoire, le changement d'échelle est toujours salutaire. Hein. Je crois que c'est un constat que nous pouvons faire assez simplement. Le changement d'échelle est le changement de point de vue, si je puis dire. Hein. L'histoire, je me rappelle avoir naguère dans mon métier d'inspecteur général, travaillé sur des programmes pas complètement différents, mais un peu arrangés pour les Antilles et la Réunion, parce qu'on ne peut pas tout à fait enseigner l'histoire quand on est dans la mer des Caraïbes de la même manière que si on est dans le bassin parisien, hein, on n'en a pas forcément le même regard. Il m'est arrivé de faire des cours d'histoire depuis Istanbul, avec vue sur le Bosphore. Quand on enseigne avec vue sur le Bosphore, dans ce lieu-là, on n'enseigne pas l'histoire de la même manière qu'à Paris. Enfin, c'est-à-dire que, alors, le changement, le dépaysement, je crois, le dépaysement est pédagogiquement extrêmement fructueux. Ceci précisé, il me semble que si, donc, il est loisible de changer d'échelle. Il reste que, d'abord, l'histoire de France, j'en sais bien, je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire de France, il y a une France qui a existé, donc il ne s'agit pas de transformer tout le passé en fonction du présent. J'en suis d'accord avec des nuances, on y reviendra. On ne va pas tout transformer, c'est vrai qu'il y a une France qui a émergé de l'Europe, je le disais tout à l'heure. Donc, l'histoire de cette France-là est tout à fait légitime, l'histoire des rois, l'histoire, etc. Elle est légitime. Ce que je crois, c'est qu'on ne peut plus faire, actuellement, de récits continus, comme les récits étaient donnés l'illusion d'une reconstitution du passé. Je ne crois pas que l'histoire soit à aucun titre une reconstitution du passé. L'histoire est un exercice d'intelligibilité, hein, globale, hein, mais on ne reconstitue rien, hein. Sinon, je ne sais pas combien de livres il faudrait pour reconstituer. Ça n'a pas grand sens. Hein. Il y a toujours un point de vue qui est pris. Hein. Donc, on ne peut plus faire un récit complètement continu. On ne peut plus non plus faire un récit qui va vers des fins dernières, si je puis dire. Les grands récits qui ont nourri l'histoire de France, ce que j'appelle dans mon livre le récit providentiel d'une part, et le récit républicain ou le roman
républicain.
Alors
qu'est-ce que c'est le récit providentiel ? Le récit républicain, on peut comprendre.
Le récit providentiel, c'est le récit qui a été construit, on peut l'analyser très très bien, autour du XIe, XIIIe siècle, avec un point nodal qui est autour de Saint-Louis, où on a reconstitué une histoire de France. Je prends l'exemple le plus simple, en faisant, par exemple, de Clovis le premier roi de France. Clovis, pour les historiens, n'a jamais été premier roi de France. Il a bien été baptisé, mais le baptême n'a pas été un sacre. On a transformé le baptême en sacre. Pour faire de Clovis le premier roi de France, on a organisé la nécropole de Saint-Denis en fonction des trois races, les mérovingiens, les carolingiens et les capétiens, hein, de manière à reconstruire une loi de France. En ce sens, le récit providentiel voyait le roi de France sous le regard des rois et de Dieu. Et on allait vers les fins dernières. Le roman républicain allait vers le bonheur pour tous. Hein. Donc ces récits-là, qui allaient vers une fin, qui était, pour employer un terme un peu complexe, eschatologique, hein, qui allaient vers une fin, ces récits-là, à mon sens, sont périmés, me semble-t-il. Hein. On ne peut plus les croire, si je puis dire. Donc il faut inventer autre chose. Parce que tout récit d'histoire de France, pour répondre à Jean Sévilla, une de ses remarques tout à l'heure, est nécessairement instrumentalisé. Hein. Il n'y a pas de récit objectif. Croire qu'on puisse faire une histoire dite objective d'histoire de France est une illusion. Enfin, les historiens le savent bien. Hein. On construit toujours par rapport à un présent. Toute histoire est contemporaine, on l'a dit et répété. Hein.
Jean Sévilla.
Alors, plusieurs problèmes. Oui. Sur ce qui est de l'histoire connectée, c'est comme très, très, très significatif. Si vous publiez aujourd'hui une histoire de l'Inde, tout le monde dit « Ah, très bien ». Si vous publiez une histoire de la civilisation islamique, tout le monde dit « Ah, très bien ». Une histoire des États-Unis, très bien. Et si vous publiez une histoire de France, on dit « Oh là là, comme c'est dangereux ». Je veux dire, il y a quand même des arrière-pensées idéologiques derrière ce réflexe. Non, je ne dis pas chez vous, cher monsieur, mais je les observe dans le débat public. Et je veux dire, on ne peut pas les nier. Alors, par ailleurs, sur ce que vous avez dit sur le récit, c'est évident que le récit prend des éléments du passé pour leur donner un sens. Il y a effectivement une eschatologie. Et là, je suis d'accord avec vous sur le discours providentiel, je dirais, royaliste catholique, qui a été celle de l'ancienne histoire, puis celle de l'histoire républicaine, où toute l'histoire de France débouchait vers la Révolution, qui était l'accession vers le bonheur. Je suis d'accord là-dessus. Simplement, il reste un fait quand même qui est un fait d'histoire. Clovis, effectivement, n'était pas un roi de France et la France n'existait pas au moment de Clovis. Il reste un fait d'histoire qui est une réalité, c'est que si on prend une carte de l'Europe et de l'Europe de 2015 et qu'on prend, je dirais, les espaces de souveraineté, même si cette notion de souveraineté n'a pas toujours voulu signifier la même chose, j'en suis entièrement d'accord. Mais je dirais, si vous prenez globalement le dessin, je dirais, des tribus sur lesquelles Vercingétorix, au moment des Gaulois, a unifié contre les Romains un temps. Si vous prenez le dessin du royaume de Clovis un temps, etc.,
C'est la Belgique, Clovis. Clovis est belge.
Mais bien entendu, ça inclut la Belgique, ça inclut...
C'est la Belgique.
J'ai dit globalement, vous retrouvez quand même un espace qui est un espace qui va donner la France. C'est un fait d'histoire, avec des ruptures.
Non, je suis en désaccord total avec
alors,
ce que vous dites.
Donc moi je maintiens...
C'est un déterminisme...
Non, c'est pas un déterminisme, c'est une observation. Il y a quand même un espace qui va finir par se constituer en ce qu'on va appeler un jour la France et qu'on va appeler un jour la nation française. Mais je veux dire, ces lieux de souveraineté, il y a quand même une forme, à travers des ruptures et des discontinuités fortes, discontinuités qui peuvent durer des dizaines, parfois des centaines d'années, mais il y a quand même quelque chose qui se dessine. Et donc, moi, je pense que ça, scientifiquement, historiquement parlant, la notion de récit ne disqualifie pas donc cette notion de toute, de même qu'un individu a une généalogie, et bien une communauté et une nation est une communauté humaine, a aussi une généalogie. Alors, il ne s'agit pas de l'apprendre au sens biologique, dans un sens primitif. Maintenant, cette continuité-là peut être dessinée dans l'histoire et elle a un sens pédagogique. Parce qu'il faut savoir, il faut savoir si on parle d'histoire scolaire ou d'histoire pour les adultes. Les adultes, les enfants sont destinés à être adultes, je sais bien. Mais enfin, il faut prendre aussi les enfants avec l'intelligence qui est la leur et leur compréhension qui est la leur. Et je pense, moi, je n'ai jamais enseigné, hein, c'est pas mon métier. Mais enfin, je suis aussi père de famille et donc ce sont des questions auxquelles je suis sensible. Un enfant va entrer... la notion de récit compte beaucoup chez les enfants. Et je veux dire, donc c'est pour ça que je pense qu'un récit qui est une histoire nationale fait entrer un enfant qui est un jeune citoyen dans une histoire qui est celle de la communauté à laquelle il appartient, même si ses ancêtres, par ailleurs, n'appartenaient pas à cette communauté parce que sa destinée personnelle est ainsi.
Et alors justement, la question que je voudrais poser par rapport à cette histoire interconnectée, ou connectée tout simplement, est-ce que l'enfant ne risque pas de se noyer dès lors qu'on ne lui apprend plus à penser à l'intérieur d'un lieu et d'un temps déterminé. Je me souviens d'une lettre de Flaubert où il revenait de l'exposition universelle et il était tout étourdi, il disait « L'homme n'est pas fait pour avaler le tout ». Et il me semble qu'on voudrait faire avaler le tout oui. aux jeunes gens, au prétexte qu'on ne doit pas les enfermer dans les étroites limites de la nation. Et ce faisant, ils perdent tout repère, aussi bien géographique qu'historique. Et la chronologie n'est plus réellement apprise. Ils ne savent plus très bien ce que sont les siècles. Tout le monde le constate aujourd'hui. Donc, l'un des avantages du récit national, c'est précisément d'inscrire les enfants, quelle que soit leur origine, dans une généalogie et une chronologie particulière, à partir de laquelle, précisément, ils pourront, dans un deuxième temps, s'ouvrir à des questions plus vastes, à l'universel.
Oui, mais je suis pas en désaccord. Enfin, je suis pas du tout en désaccord avec cela. D'abord, il faut savoir de quel niveau d'enseignement on parle. À l'école primaire, jusqu'à aujourd'hui, la quasi-totalité du programme est consacrée à l'histoire nationale. Hein, toujours. Hein. Il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas le moindre trace d'histoire connectée dans les programmes actuellement de l'école primaire. Alors, je sais pas où on va maintenant, mais actuellement. Il y a d'autres critiques à leur faire, hein, qu'on pourra faire, mais c'est pas cela. À dépend si on parle du collège. Je voulais dire aussi à la Villecrotte quand même que je connais bien les programmes depuis la fin, depuis qu'il y a des programmes, depuis le 19e siècle, en gros, il y a vraiment des programmes d'histoire fin 19e siècle, même en collège et en lycée. Dans la tradition française, l'histoire de l'Europe et du monde a toujours constitué une part très importante des programmes. C'est pas du tout une nouveauté, ça, hein. J'avais calculé à peu près que c'était moitié-moitié, hein, dans l'exemple français. Contrairement à d'autres pays européens, on enseigne beaucoup plus l'histoire nationale en Espagne, en Italie, en Angleterre c'est compliqué parce qu'il y a liberté des programmes à peu près complètement, en Allemagne c'est compliqué parce que c'est les différents Länder, bon c'est compliqué. Mais la France le considérait un tout petit peu par arrogance intellectuelle parce qu'elle pensait un peu que l'histoire du monde était son histoire, si je peux dire. Elle donnait la liberté au monde. Donc faire l'histoire du monde, c'était donner la générosité française répandue sur le monde. C'était un peu comme ça dans les vieux programmes, hein. Un peu comme ça que la France donne la liberté au monde, libère les peuples, etc. etc. Et là, il y a un regard qui était exclusivement franco-français, qu'il fallait corriger, je crois que tout le monde pourrait être d'accord, hein, qui était exclusivement enfermé. Donc, je crois qu'on peut toujours... Il faut toujours... Alors, simplement, ce que je veux dire, simplement, c'est que, il me semble, ça ne me gêne pas du tout, la plaisanterie autour de nos ancêtres les Gaulois enseignés aux petits noirs m'a toujours semblé absurde, parce que on est dans la métaphore, bien entendu. Quand on dit nos ancêtres les Gaulois, on veut dire que on décide, un groupement humain décide symboliquement de choisir les Gaulois comme ancêtres, hein. C'est que ça veut dire, hein. Parce qu'historiquement, ça ne veut rien dire. Historiquement, les Gaulois sont-ils nos ancêtres, ça n'a pas de sens, si je puis dire, hein. Mais ça a un sens métaphorique. Moi, je m'amuse dans mon livre à dire nos ancêtres, les Phocéens, mêlés aux Ségobriges, hein, à Marseille.
Ah oui, d'ailleurs, on y reviendra, parce que vous voulez commencer par Marseille.
Mais je propose, c'est pas du tout, je n'impose rien. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours de la métaphore et du choix politique. Du choix national dans les morceaux d'histoire que l'on enseigne.
Un détail, mais qui m'avait frappé. Il y a très peu de temps, j'ai discuté avec une dame cambodgienne qui vit en France parce qu'elle a quitté son pays après le génocide, avant même, elle a eu le temps de... Et elle me racontait qu'à l'école, elle apprenait nos ancêtres les Gaulois. Et elle me disait évidemment que c'était absurde, mais en même temps, je suis au fond très reconnaissante d'avoir appris cette leçon-là, parce qu'elle m'inscrivait dans une généalogie qui est une généalogie spirituelle. Et c'est dans ça que je pense qu'il y a quand même des symboles qui sont des symboles forts et qui peuvent avoir une efficacité réelle, parce que précisément, ils vous inscrivent dans une geste qui dépasse les générations et qui dépasse les personnes et qui sont des gestes civilisatrices et qui dépassent, encore une fois, les races, les appartenances ethniques, etc.
Jean Sévilla, je n'élimine aucun symbole. Je pense qu'actuellement, on est à l'époque du pluralisme. Donc, je ne dis pas qu'il faut enseigner cela. Je ne dis pas qu'il faut commencer par Marseille. Je dis qu'on peut commencer par Marseille, comme on peut commencer, et que le début donne sens à tout le reste. C'est ça que je dis simplement. Hein.
Alors, mais précisément, je ne me souviens pas, peut-être ces souvenirs, cette mémoire est-elle trop lointaine, qu'on m'ait vraiment enseigné nos ancêtres les Gaulois. Et là, à ma propre surprise, je vais faire un tout petit détour, si vous me permettez, par Charles Maurras. Ma surprise, parce que je ne peux pas être maurrassien pour toutes sortes de raisons. Je vais en dire une à travers une citation de L'Avenir de l'Intelligence. Comment ces gens-là, et parmi ces gens-là je me situe, auraient-ils un goût sincère pour nos humanités? Qu'est-ce qu'ils peuvent en comprendre? Cela ne s'apprend point à l'université. Tous les grades du monde ne feront pas sentir à ce critique juif, d'ailleurs érudit, que dans Bérénice, lieu charmant où mon cœur vous avait adoré, est une façon de parler qui n'est point banale, mais simple, émouvante et très belle. Il n'empêche, il y a une sorte de profession de foi de Maurras qui, si vous voulez, entre en résonance, me semble-t-il, avec l'enseignement que j'ai reçu. Je suis romain, parce que Rome, dès le consul Marius et le divin Jules jusqu'à Théodose, ébaucha la première configuration de ma France. Je suis romain parce que si je ne l'étais pas, je n'aurais à peu près plus rien de français. Je suis romain dans la mesure où je me sens homme, animal qui construit des villes et des états, non vague rongeur de racines. Je suis romain, je suis humain, deux propositions identiques. Dans la mesure où j'ai fait du latin, j'ai étudié César, la guerre des Gaules, mais on ne me demandait pas, à ce moment-là, de m'identifier aux Gaulois. On me demandait de traduire César. Et ma formation, c'était précisément le latin. C'était beaucoup plus le latin que la moustache de Vercingétorix. Et c'est aussi cette formation-là, d'ailleurs, qui est en train de disparaître, dans la mesure où on n'apprend quasiment plus le latin dans les petites classes. Jean Sévilla.
Je crois que Vercingétorix et nos ancêtres gaulois, c'était surtout l'enseignement primaire, oui, tandis que l'enseignement secondaire insistait sur nos racines grecques, latines.
C'est la vis, hein. C'est très clairement la vis.
Oui, voilà.
Très clairement la vis.
Oui. De ce point de vue aussi, je voudrais apporter un petit correctif que je n'ai pas dit, mais il y a aussi beaucoup de fantasmes autour du fait que notre histoire autrefois était purement hexagonale. Enfin, on apprenait... c'est ce que vous avez dit, tout à fait, mais j'ai appris, enfin, comme tout le monde, j'ai appris par exemple l'Égypte pharaonique à l'école. Enfin, je veux dire, on ne nous apprenait pas que la France. Et l'influence de l'Égypte pharaonique sur l'histoire de France est faible, sauf sur le plan peut-être artistique. Il ne faut pas non plus, je dirais, trop médire, enfin, pas médire de l'histoire d'autrefois. Je veux dire, c'était pas...
Non, mais c'est ce que vous l'avez dit aussi.
Oui, je vais dans le même sens, nous sommes d'accord.
Mais justement, revenons aux origines et à votre proposition, Dominique Borne. Parce que vous dites aussi que, certes, il ne s'agit pas d'aligner l'histoire du passé sur le présent, ses valeurs et ses préoccupations. Il n'empêche qu'on ne peut pas faire abstraction de ce présent.
Absolument.
Donc, vous choisissez, pour des raisons que je voudrais que vous explicitiez, vous proposez, modestement, mais vous proposez quand même, Marseille. Pourquoi Marseille? En quoi Marseille entre-t-il en résonance avec notre actualité?
Ça entre en résonance avec pas seulement l'actualité, c'est pas mon but, hein, mais ça permet de donner une certaine orientation à l'ensemble du récit. Je ne dis pas que c'est la bonne orientation, encore une fois, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, hein, et je ne méprise aucun autre récit. Je dis simplement que le début implique une origine, implique un destin, si je puis dire. Marseille, je peux raconter en deux mots la légende. Hein. Ce qui est très beau dans Marseille, c'est qu'il y a une légende très tardive. Elle est cinq siècles après la fondation de la ville en 600 avant Jésus-Christ. Mais la légende a été confortée par les fouilles archéologiques. C'est tout à fait extraordinaire dans le cas de Marseille. On a retrouvé ce que racontait la légende, en fait, en grande partie. Alors, il y a des phocéens qui partent d'Asie mineure, ville grecque, sur des pentécontères, des navires à 50 rameurs, hein, et qui, ils s'appellent, selon la légende, Protis. Ils s'appellent Protis, le chef des Grecs. Ils étaient passés par Delphes parce qu'il fallait que l'oracle soit favorable. Et puis, ils débarquent dans une calanque, c'est le futur vieux port, hein, abri pour leur bateau, ils tirent leur bateau, et là, raconte la légende, il y avait un roi local, des Ségobriges, on ne sait pas très bien qui sont les Ségobriges, on n'a pas de traces archéologiques des Ségobriges, qui mariait sa fille, c'est le roi Nan, sa fille s'appelle Gyptis, et la légende voulait que c'était un repas de mariage où la fille choisissait son époux. Elle le choisissait en lui offrant une coupe d'eau. Quand le beau grec arrive, Gyptis tombe pâmée devant le beau grec, elle lui tend la coupe, et Massalia naît d'un mariage entre les Ségobriges et les Grecs. Bon, je passe sur la suite, on est en 600. Alors, d'abord, première grande ville française, quand même, future française, hein, pour vous rejoindre. Ça, c'est un fait incontestable. Ensuite, ce qui m'intéresse dans la légende telle qu'elle est rapportée, c'est que les auteurs latins qui la rapportent expliquent très clairement que c'est le mariage de la civilisation avec les barbares. Et que les Grecs ont apporté l'empire des lois préféré à l'empire des armes, l'agriculture préférée à l'élevage, etc., etc., les villes saintes de remparts. Et donc on a une métaphore du contact entre la civilisation et les barbares, et cette métaphore, juste où je n'en sais rien, j'ai pas la possibilité en tant qu'historien de vérifier le degré de barbarie des Ségobriges, hein. Je n'en sais rien, cela. Mais cette métaphore, elle est sans cesse ensuite une constante du discours sur l'histoire de la France. On la retrouve entre Rome et les Francs, hein, par exemple. Hein. On la retrouve à tout moment de l'histoire de France. On la retrouve même au XIXe siècle, je saute volontairement de longs pans d'histoire, quand on évoque ce que Louis Chevalier appelait les classes dangereuses, hein, dans les villes françaises. Hein. Et les classes dangereuses évoquées comme des barbares. Hein. Pensons à juin 48, pensons à beaucoup d'événements de l'histoire de France. Donc, je veux dire, c'est une métaphore éclairante.
Et quelle est sa validité
sur l'ensemble de l'histoire.
Et aujourd'hui,
bon, on peut y réfléchir. On est bien d'accord, on peut y réfléchir. On peut réfléchir, ça permet, il ne s'agit pas d'appliquer, parce que les temps sont différents, donc il serait absurde de décalquer, il ne s'agit pas de décalquer, hein. Mais il s'agit de regarder comment peut fonctionner une telle métaphore dans le courant de l'histoire de France. Alors, d'autre part enfin, il me semble que ce que dit d'autre part ce début, c'est que la France est faite constamment de mélanges, hein, et que la France est un des rares pays, je crois qu'on sera d'accord avec Jean Sévillia sur ce point, qui ne repose pas sur une race, qui ne repose pas sur les Hongrois, qui repose sur des Magyars, qui ne repose pas au point de départ, la langue s'est faite progressivement, mais au point de départ, il n'y a pas de langue, la langue s'est faite ensuite, hein, par mélange. Hein.
Ouais, que pensez-vous de cette généalogie-là?
Cette généalogie, moi, Marseille me va. Hein. Je veux dire, c'est la Grèce, c'est nos grandes origines philosophiques, littéraires. Je veux dire, les Grecs nous ont pris à penser, donc moi, je prends Marseille. Hein. Et puis c'est aussi la Provence qui est aussi au cœur de la France, hein, de la France du Sud, parce qu'on a tendance aussi à septentrionaliser l'histoire de France souvent. Bon, maintenant, sur ce que vous venez de dire, qui est quand même intéressant, la France est un creuset, elle a toujours été un mélange, oui et non. Elle l'a été dans ses origines, c'est une vérité historique, succession de... les premiers siècles, c'était d'ailleurs pas encore la France, c'était la France avant la France, des peuples qui arrivent, mais sur un fond qui était quand même... c'était des petites populations, les grandes invasions n'étaient pas des millions de gens qui déversaient, mais c'est une vérité. Maintenant, il y a un moment où ces courants migratoires s'arrêtent. Ça, c'est un fait d'histoire quand même. Et en gros, entre 5e, 6e siècle et milieu du 19e siècle, la population française ne bouge
stable.
Plus,
est stable. 5e, 9e, 10e, pas 5e, 9e, 10e.
9e, 10e pour les Normands, mais enfin... 9e, 10e. Oui, mais, bon, pour les Normands, je veux bien, mais enfin, pour, qui ne sont pas le plus grand apport. Mais admettons, on va jusqu'au 10e, entre le 10e et la moitié du 19e siècle. Je n'en fais pas un point idéologique, mais c'est un fait d'histoire. Je veux dire, cette population ne bouge plus. Et à partir du milieu du 19e siècle, en effet, on a des courants migratoires qui reprennent, qui bouleversent la composition de la population française. Mais enfin, faut quand même le dire, parce que ça, c'est un fait d'histoire. Parce qu'aujourd'hui, on tente à instrumentaliser cette notion de mélange comme s'il était constitutif en soi de l'identité française. L'identité française, c'est une histoire, donc il y a des moments où cette histoire est faite de mélange, il y a des moments où elle est faite de stabilité, puis d'autres moments où, en effet, les courants migratoires reprennent.
Alors justement, Dominique Borne, en proposant cette origine marseillaise, est-ce que vous ne tendez pas à esquiver, à contourner la nécessité de l'intégration, voire de l'assimilation. C'est-à-dire, des nouveaux arrivants s'installent en France, on leur propose une histoire, une généalogie qui n'est pas la leur. On leur offre un héritage. Et avec Marseille, vous dites non. De toute façon, cet héritage est un mélange, et donc, plutôt que d'une intégration, eh bien, on va créer les conditions d'une fusion entre tous les héritages de tous ceux qui vivent aujourd'hui sur le territoire national, de manière à faire France, expression que vous reprenez à votre compte, et que je n'ai pas entendu de mon temps. Il ne s'agissait pas pour moi de faire France en apportant ma quote-part, mais d'entrer dans la civilisation française au travers de l'apprentissage de sa langue, de sa littérature et de son histoire. Dominique Borne.
Oui, on pourra revenir sur langue et littérature auxquelles j'attache une grande importance. Hein. Donc on pourra y revenir. Je donne à le premier texte, le premier poème français, pour moi, une date historique très importante. Donc on reviendra sur ce sujet-là, sûrement. Alors, on est au cœur, là, je crois, dans ce que vous venez de dire, Alain Finkielkraut. On est au cœur des problèmes et de mes interrogations. Je n'ai pas de certitude, hein, ce serait arrogant d'en avoir sur ce sujet-là, mais de mes interrogations et de l'essence de mon livre, il me semble. Je crois qu'on ne peut pas être français aujourd'hui, je dis aujourd'hui, si on ne sent pas qu'on est dans l'histoire de France. C'est comme ça que je le dirais, si je puis dire. Hein. Mon souci, c'est de réfléchir à comment peut-on faire entrer dans l'histoire de France ceux qui ne se sentent pas français. Et je connais bien, j'ai fréquenté beaucoup les quartiers difficiles, et j'y vais encore, hein, sur les raisonnements récents, il m'arrive qu'on m'appelle dans une école primaire pour que je conseille sur la laïcité, des choses comme ça. Donc je continue à faire des choses sur le terrain. Donc je connais bien le terrain. J'ai entendu, comme d'autres, hein, j'ai entendu des gamins dire, quand on les menait à Paris, on va chez les Céfrans. Hein. Donc ils ne se sentaient même pas habités en France. Donc c'est même pas sentir français, mais même pas habités en France. Il y a des phénomènes d'extéritorialité, hein, si je puis dire, hein, que l'on constate. Alors ma réflexion est celle-là, que peut l'histoire par rapport à cela ? Que peut l'histoire par rapport à cela ? Et quand je regarde, par exemple, que dans les programmes d'histoire du primaire, l'islam, islam avec un I majuscule ou avec un I minuscule, civilisation ou religion, hein, je mêle les deux, hein, volontairement, hein, l'islam n'est envisagé qu'à propos des croisades. Je ne suis pas sûr que je sois tout à fait heureux de n'envisager l'histoire qu'à propos des croisades, alors quand même...
C'est corrigé au collège, hein ?
J'en parlerai dans un instant. D'accord. Alors que, quand même, il s'agit d'expliquer... à tous les élèves, pourquoi certains de leurs camarades sont musulmans, ou se professent musulmans, ou sont d'origine, etc. Hein. Il s'agit de comprendre ce qui se passe. Il s'agit simplement d'expliquer ce qui se passe. Donc il s'agit, par exemple, ce qui est assez peu fait jusqu'à présent, d'enseigner l'histoire de l'immigration. C'est une chose assez simple, hein. Enseigner l'histoire de l'immigration, et c'est une des points dans mon livre auquel je tiens un tout petit peu. Le phénomène migratoire en France, je dis migratoire pour le moment, a été une constante de l'histoire de France. de Bécassine, hein, au début du XIXe siècle, hein, etc. etc. Pendant très longtemps, on a eu arrivé vers les villes des populations qui ne parlaient pas le français, à l'époque même migratoire. Arrivées de Bretagne, du Massif central, etc., qui parlaient une autre langue que le français, qui parlaient ce qu'on appelait les patois, langue locale, etc. Et que ce phénomène de migration, quand les campagnes ont été à peu près vides, ou presque, hein, ou insuffisamment pourvues pour continuer à alimenter les villes et l'industrie, hein, on a fait appel à l'immigration. Il y a une continuité des migrations internes jusqu'aux immigrations. Là, beaucoup de Français, leurs ancêtres, sont descendus des montagnes, pour prendre cette image-là, hein, des Aurès, de l'Atlas, ou du Puy-de-Dôme. Hein. Et donc, il y a eu ce mouvement-là.
C'est pas tout à fait la même chose, quand même. L'immigration intérieure et l'immigration...
Il y a continuité de l'un à l'autre. Il y a continuité alors, historique. Je constate, personne ne peut me dire le contraire. Hein. Il y a continuité historique de l'un à l'autre. Hein. Non, mais il y a continuité historique. Dis il y a continuité. Après, le sens que je leur donne, effectivement, bien sûr, il y a un débat. Hein. Mais il y a continuité historique de l'un à l'autre. Si je pense par ailleurs que, par exemple, pour regarder sur l'histoire des Juifs en France, j'ai toujours été scandalisé, je l'ai dit, je l'ai répété, et je n'ai pas réussi à obtenir satisfaction dans ce domaine-là. On ne parle jamais des Juifs du judaïsme, on parle de l'antisémitisme. Et c'est un des graves problèmes. On ne se rend pas compte que, j'avais envie de dire que, Dieu sait, j'y ai eu ma part, hein, si on enseigne actuellement la Shoah à l'école primaire, au collège et au lycée, c'est un programme affirmé, etc. Hein, mais on enseigne tout le monde des moments, un peu d'antisémitisme à l'époque médiévale, on enseigne ensuite affaire Dreyfus, antisémitisme, et puis Shoah. Et donc, au lieu d'enseigner le judaïsme dans la continuité, si je puis dire. Hein. Et donc, ce que je demande dans ce domaine-là, c'est à la fois sur l'islam, sur le judaïsme, mais sur bien d'autres choses, je peux prendre d'autres exemples, hein, d'enseigner la continuité et de faire entrer cela dans l'histoire.
Jean Sévillard.
Alors, sur ce dernier point, évidemment, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait qu'il faudrait enseigner mieux l'histoire. Il y a un vieux judaïsme français. Les Juifs sont présents en France depuis la Gaule, c'est-à-dire depuis la France avant la France. Et c'est évident que le judaïsme est une composante de l'histoire de France. C'est une évidence. Bon. Sur l'autre point, alors là, je suis désolé, cher monsieur, nous sommes en désaccord.
Il faut bien.
Il faut bien, parce que sinon, cette émission va ronronner.
Elle ne ronronne pas.
Non, non.
Rassurez-vous.
Tourner, présenter le phénomène migratoire comme une constante de l'histoire de France, vous tournez autour du pot. Si vous entendez par là qu'on a toujours qu'il y a eu toujours des populations en mouvement à l'intérieur du sol français, même les sociétés médiévales, contrairement à ce qu'on croit, n'étaient pas des sociétés immobiles, les gens bougeaient beaucoup. Ça, les médiévistes aujourd'hui, d'accord. Mais enfin, c'est pas la même chose que d'arriver de Bretagne, même si on ne parle pas le français, qu'on ne parle que le breton, comme Bécassine, que d'arriver d'un autre pays. Parce que la Bretagne faisait partie déjà de la France, si vous voulez. C'est pas la même chose, une migration intérieure et une migration extérieure.
C'est vous qui le dites. Hein, mais
bon. Je le dis. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'à partir du moment où il faut faire des enfants, ces enfants sont des citoyens français, même s'ils ne se sentent pas, c'est franc, comme ils disent, il faut essayer de leur faire comprendre cette histoire de France. Donc, je ne pense pas que ce soit leur rendre service que de noyer le poisson ou... Si, en dire, il y a toujours eu d'immigration. Non, il y a quand même une histoire qui sont les histoires des civilisations, des nations. Il faut ça, il ne faut pas le dissimuler. Alors, attendez.
Est-ce que j'ai dit qu'il fallait le dissimuler?
J'ai pas dit ça, mais enfin... Vous ne voulez pas le dissimuler, mais dire simplement, dire, il y a toujours eu d'immigration, ce n'est qu'une partie du raisonnement.
Attendez, c'est une partie.
Et alors, surtout, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un élément... Évidemment, ces enfants se posent la question, leurs ancêtres n'étaient pas français, ils se disent, quand est-ce qu'on se rend compte et qu'est-ce qu'on fait là? Alors, il y a quelque chose, à mon sens, si j'entre dans un point particulier, mais qui est à mon sens qui est très important, qui est que, quand même, la France et les pays dont viennent les populations issues d'immigration aujourd'hui, globalement, la France et ces pays-là se sont connus et fréquentés pendant un gros siècle qui a été celui de la colonisation. Alors le problème, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, il y a un interdit majeur qui pèse sur la colonisation, dont il convient par principe de dire du mal, et dont il
est interdit... Mais pourquoi vous dites ça? À quel texte vous référez pour dire ça?
L'Assemblée nationale, quand on a voulu parler des points positifs...
Mais c'était pas le rôle de l'Assemblée nationale de...
Oui, d'accord,
pas l'histoire.
Oui, la loi de 1905... Cette proposition de loi de 1905, que je pensais maladroite, personnellement, j'étais contre, parce que je ne pense pas qu'il faille faire des lois. Donc, je suis contre. Mais enfin, l'idée l'idée, c'était, derrière cette loi, c'était il faudrait quand même présenter aux enfants le fait que la rencontre entre la France et des peuples d'outre-mer, pour faire simple, au cours de l'histoire coloniale, a aussi produit du fruit positif. Voilà. Cette idée-là me paraît belle, elle me paraît saine, parce que ce n'est pas poser ces enfants, c'est pas poser dans l'esprit de ces enfants une opposition, une contradiction, voire une violence entre leurs ancêtres et la France, mais c'est l'idée, la France a aussi apporté quelque chose. Alors, parce que l'histoire de la colonisation, c'est l'histoire d'une rencontre. Alors, il ne s'agit évidemment pas de faire un récit rosé-blanc de colonisation qui a été une chose merveilleuse, mais ça, de toute façon, aujourd'hui, on n'a plus droit, mais pas non plus de faire un récit où tout noir, tout blanc, de l'histoire de la colonisation. Donc il faut raconter cette histoire, et je pense que là, on a un élément quand même, un élément fort. Je sais bien qu'il n'y a pas de texte officiel, mais enfin, dans la culture dominante, et on le voit bien, oui. Je dirais, dans l'esprit de beaucoup de professeurs, ils sont quand même habités par cette idée que nous devrions nous excuser d'avoir été un peuple colonisateur. Et ils sont en situation pratiquement de s'excuser auprès des enfants. Ça ne me paraît pas sain, ça ne me paraît pas d'abord une attitude historienne. L'histoire, elle étudie les faits, objectivement, elle les pose, sans passion. Et puis, je veux dire, on ne peut pas masquer cette partie-là de l'histoire.
Oui, Jean Sévillard.
Dominique Borne.
L'histoire, ça ne sert pas à faire de la morale. D'accord. Donc, il est tout aussi absurde de dire que la colonisation, c'est bien, que de dire que c'est mal.
C'est pas ça.
Je dis ma position à moi.
D'accord.
Je dis ma position à moi ici. Et ce que j'ai toujours défendu quand j'étais en position de faire des programmes. Vous avez, dans votre livre d'ailleurs, quand vous écrivez La Constituante a le meilleur et le pire, bon, vous faites de la morale. Hein. Vous faites de la morale. Hein. Et il y a sans cesse dans votre livre, il y a cette position morale. Vous avez le droit, c'est pas du tout. Mais je le constate, si vous voulez. Hein. Alors que pour moi, l'histoire, ce n'est pas de la morale. Et que l'histoire consiste effectivement autrement. Et sur la colonisation, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu des choses épouvantables. On a enfumé des populations entières dans des cavernes, au début, dans des grottes, au début de la conquête de l'Algérie, enfumées volontairement, femmes et enfants. Hein. Ça, c'est l'armée française qui a fait cela. Et puis un peu plus tard, il y a eu l'Institut Pasteur. Hein. Je le dis très simplement. Il faut dire les choses, hein. Et moi je fais de l'histoire, hein. Mais je ne dis pas c'est bien ou c'est mal, hein.
Oui, mais attendez.
Je ne dis à aucun moment c'est bien ou c'est mal. Je fais de l'histoire.
Mais Dominique Borne, quand vous dites que la France a été depuis toujours une terre d'immigration, quand vous instaurez cette continuité entre l'immigration intérieure et l'immigration extérieur, sans distinguer d'ailleurs à l'intérieur, si j'ose dire, de cette immigration. Je ne sais pas si vous faites de la morale, mais vous êtes animé par le souci de réconcilier ceux qui parlent de ces Francs en allant à Paris avec la France. Et quand on enseigne l'islam, c'est plutôt pour en faire valoir les aspects positifs que pour lier d'une manière ou d'une autre le Coran à la guerre. Mais tout cela, ce n'est pas de la morale, mais il y a un souci moral derrière ce genre de proposition. Et vous avez parlé du judaïsme français. C'est très intéressant, en effet, il existe. Moi, j'ai lu Armand Lunel, Niccolò Pecavi, et il a écrit sur les Juifs du Comtat Vénessin et de Carpentras. Et je l'ai relu quand j'ai appris ce qui se passait à Lunel aujourd'hui. Lunel était au Moyen-Âge une petite Jérusalem médiévale. Il y avait des rabbins qui étaient des très grands savants. Aujourd'hui, 18 ou une vingtaine de jeunes gens de Lunel sont partis faire le djihad, ce qui fait que la composition démographique de Lunel a changé. Mais croyez-vous vraiment que on fera échapper ces jeunes gens à la radicalisation en leur disant que la France a toujours été une terre d'immigration et en leur vantant, si vous voulez, l'apport civilisationnel de l'islam?
J'ai pas dit, ça, c'est vous qui l'ajoutez.
Oui, bien sûr.
C'est vous qui l'ajoutez, c'est pas moi qui le dis. Je ne parle pas comme ça. Hein. Je ne parle pas comme ça parce que je pense au bienfait d'abord d'une histoire longue. Hein. Très longue. Très longue, c'est-à-dire qu'il y a eu les rapports entre on va dire, l'Occident chrétien et l'islam, parce que c'est pas seulement la France. Même la France a souvent eu des alliances de revers avec le Grand Turc. Hein. Donc, c'est plus complexe que ça du côté de la France. Hein. Mais la longue durée, l'islam a été, pendant très longtemps, l'autre de l'Europe. Hein. On peut le dire comme ça, hein, très simplement. Hein. Pierre le Vénérable fait traduire le Coran avec une équipe d'Espagnols bien au fait. Et en même temps, en marge, il y avait une exposition à la BNF qui le montrait. Il y a une caricature de Mohamed en diable. Hein. Vous voyez, c'est déjà le prophète attaqué dans les marges. On est au XIIe siècle. Hein. C'est tout à fait intéressant. Hein. Mais on voulait savoir, mais on critiquait. C'était le diable, hein, le prophète. Il faut dire ça. Il ne s'agit pas de dire... Alors, il y a aussi une très brillante civilisation, bien entendu.
Bien sûr.
Mais j'allais dire tout cela en même temps, si je D'accord. puis dire. Hein. Moi, j'ai aucun problème. Je ne cherche absolument pas... Ah, et ce qu'on raconte, par exemple, sur l'Andalousie, c'est des billevesées utopiques sur l'idéal de fusion,
oui,
de contact, etc.
Mais
les historiens le savent bien. Donc il s'agit de faire une histoire vraie. Mais je vais prendre un exemple, oui. simple. On dirait un tout petit peu aux élèves que nous avons que pendant des siècles, juifs et arabes musulmans, c'est compliqué pour désigner, ont vécu ensemble en Afrique du Nord, que la langue des Juifs était l'arabe, hein, c'est une chose très importante, ce que personne ne dit jamais, hein, et qu'ils ont été ensuite, 62, souvent compagnons d'immigration, juifs, harkis, rentrant en France, etc. Hein. Alors cette histoire-là, hein, qui est de l'histoire, hein, avec très souvent, je n'idéalise pas les rapports entre juifs et musulmans en Afrique du Nord. Il y a eu très souvent des conflits. Mais en gros, ils ont vécu côte à côte. Hein. Côte à côte et avec le même type de civilisation, le même type de nourriture, le même type de... etc. Et la même langue. C'est un point extrêmement important. Pourquoi on ne le dit pas, ça, maintenant? Pourquoi on ne dit pas des choses comme ça? Alors, mon propos, c'est de faire de l'histoire. Hein, et pas du tout de l'histoire sainte, hein, mais de faire de l'histoire.
Oui, mais c'est pour faire de l'histoire et pour reprendre vos propos, moi je pense qu'il faut, à propos de l'islam qui a été l'autre de l'Europe ou de la France pendant des siècles, je reviens sur mon idée, elle n'est pas obsessionnelle mais elle me paraît extrêmement importante par rapport aux enjeux d'aujourd'hui, par rapport à l'intégration ou l'assimilation des jeunes issus de l'immigration musulmane, c'est qu'il y a eu 130 ans où l'islam n'était pas l'autre de la France, il faisait partie, il y a eu un islam sous souveraineté
Absolument.
Française, sous drapeau tricolore,
la France était une
à l'intérieur du
musulmane.
Cadre colonial.
La France
Alors, ce
une
cadre colonial,
musulmane.
Je n'ai pas dit qu'il était parfait, ni que le système colonial, ni que la colonisation est un principe.
Ça, quand même, on ne peut pas le dire.
Non, mais je ne le dis pas. Mais c'est de l'histoire, voilà. Mais ça, il faut le dire. Mais si on enseigne aux enfants que la France a commis des crimes contre leurs aïeux, il est évident qu'ils ne peuvent être que révoltés contre la France. Il y a une logique là-dedans. Mais je n'ai pas dit que c'était votre position à vous, mais c'est une position qu'on trouve chez certains, cher monsieur, vous ne pouvez pas le nier. Et je veux dire, elle est même dominante dans l'esprit public, ou du moins dans la culture dominante. Et donc, moi, si on faisait un vrai travail d'historien, pas d'idéologue, je suis d'accord, c'est pas vous, monsieur, que j'accuse d'être un idéologue, mais si on faisait un vrai travail sur notre histoire coloniale, et je pense qu'on désarmerait beaucoup de questions liées à l'intégration, à l'assimilation.
Bien, alors maintenant, je voudrais revenir, pour terminer l'émission, à une très célèbre réflexion de Renan, sa conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?» et je voudrais vous demander... Si la définition que Renan donne de la nation, on dirait aujourd'hui de l'identité nationale, est toujours valable et si elle doit inspirer l'enseignement de l'histoire. Je rappelle cette définition, une nation est une âme, un principe spirituel, deux choses qui à vrai dire n'en font qu'une constituent cette âme, ce principe spirituel, l'une est dans le passé, l'autre dans le présent, l'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre est et le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu, indivise. L'homme, messieurs, ne s'improvise pas. Et dans le passé, un héritage de gloire et de regrets à partager, dans l'avenir, un même programme à réaliser. Cette définition a-t-elle vieilli ou reste-t-elle valable ? Dominique Borne.
Elle est, à la lettre près, valable. Je la signe.
Vous la signez.
Je la signe tout à fait. En précisant simplement que l'héritage n'est pas identique de siècle en siècle. Hein. On n'a pas le même héritage quand on vit aujourd'hui qu'il y a 50 ans, hein, toute évidence. Hein, l'héritage se transforme sans cesse.
Il ne peut pas complètement bouger, parce que si le passé bouge...
Oui. Ça ne veut rien dire. Excusez-moi, mais le passé bouge, ça n'a pas de sens de dire cela. Le passé ne bouge pas, c'est l'historien qui écrit. C'est l'historien qui écrit et qui interprète le passé. Et les historiens varient. Hein. Et la liberté de l'historien, ma position n'est pas la même que celle de Jean Sévilla. Son livre n'est pas identique au mien. Hein. Je ne dirai pas la même chose sur la Révolution que ce qu'il écrit, etc., etc. Et tout cela est légitime. Et quand je dis pluraliste, c'est que vous avez tout à fait le droit de penser autrement que moi. C'est ma position forte, si je puis dire cela. Et que je pense à la multiplicité des récits, je crois, qu'on en est à l'époque de la multiplicité des récits et du pluralisme.
Alors, Jean Sévilla, votre réponse pour finir.
Pour ma part, je souscris totalement à la définition de Renan. Je pense qu'elle n'a pas vieilli. Elle part de cette notion d'héritage. Alors oui, cet héritage, il est riche. Oui, on peut regarder, jeter des regards qui diffèrent. Et donc, les historiens, par exemple, approfondissent les Gaulois, par exemple. On ne dit plus sur les Gaulois aujourd'hui que ce que disaient les historiens il y a un siècle. Mais ça n'empêche qu'on part d'idées qu'il y a un héritage. Encore faut-il cet héritage le reconnaître et s'en reconnaître débiteur. C'est cette idée immense qu'il y a dans Renan, c'est que l'homme est un débiteur, au fond, qu'il apporte moins à la civilisation que ce qu'il a reçu. Et ça, pour moi, c'est une idée fondatrice.
Un tout petit mot, cet héritage, il n'est pas donné, il est créé. C'est ça qui nous différencie profondément.
Si
on met au clair,
s'agit-il d'un donné ou d'un créé?
Moi, il me semble.
Alors, je pense qu'on pourrait même repartir de cette conclusion, mais elle me paraît en effet marquer votre divergence. Alors, pour approfondir cette divergence, je voudrais conseiller à nos auditeurs votre livre, Dominique Borne, publié dans la Bibliothèque des Histoires, des éditions Gallimard. Quelle histoire pour la France, Jean Sévilla, vous avez écrit une histoire passionnée de la France chez Perrin. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Big Brother est-il parmi nous ?» et mes invités seront Laurent Geoffrin et Laurent Oberton. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Emmanuel Morse d'Incan. Dans un instant, concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney, l'indignité nationale, résurgence d'une peine infamante avec Anne Simonin.